Les jours se suivent et se ressemblent pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique, mis en minorité mardi avec la défection de 21 députés de son camp, a subi une nouvelle fois hier une nouvelle série de revers à la Chambre des communes. Les députés ont voté en faveur d'un report de la date du Brexit si jamais il n'y avait pas d'accord pour le divorce avec l'Union. Ils ont également écarté la tenue d'élections anticipées que souhaite Boris Johnson. Les solutions s'amenuisent, Antoine Gignot, tant pour le Royaume-Uni que pour l'homme qui en est à sa tête.
Face à la débâcle, il affiche un air goguenard et incrédule. C'est la première fois qu'un chef de l'opposition refuse une occasion d'organiser des élections, lance Boris Johnson. Déjà battu par l'opposition à deux reprises et probablement bientôt contraint d'aller demander un report du Brexit, le Premier ministre espérait convaincre la gauche d'organiser des élections anticipées. Peine perdue, les travaillistes s'opposent au scrutin. Leur chef de file, Jeremy Corbyn, dénonce une tentative de dissoudre le Parlement pour se débarrasser des élus et accélérer en douce la sortie de l'Union européenne. Cette proposition d'élection, dit-il, ressemble un peu à la pomme offerte par la méchante sorcière à Blanche-Neige. Parce que ce qu'on nous offre, c'est le poison d'un Brexit sans aucun accord. Même discours chez les libéraux-démocrates et chez les Verts qui qualifient la tentative de Boris Johnson de mouvement désespéré et cynique lâché par une partie des élus de la majorité. En moins de 48 heures, le Premier ministre a perdu 3 votes et une vingtaine de députés conservateurs.
Reportage d'Antoine Gignot à Londres. La crise est en revanche terminée en Italie. Le gouvernement entre les 5 étoiles et le Parti démocrate est désormais formé. Giuseppe Conte, le président du Conseil, va prêter serment ce matin. Son nouveau gouvernement doit éviter la récession économique d'un pays dont la dette culmine à plus de 130% du PIB. La contestation à Hong Kong, elle n'a pas pris fin malgré le retrait hier du projet de loi controversé sur les extraditions. Les manifestants promettent d'autres actions. Cette décision de la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam n'est pour eux qu'un préalable à d'autres réformes qui iraient vers plus de démocratie dans la région. Ils réclament notamment d'élire eux-mêmes leur gouvernement au suffrage universel. Mise sous pression depuis 3 mois, Carrie Lam a donc cédé, mais les Hongkongais que vous avez rencontrés, Stéphane Lagarde, ne s'en contenteront pas.
Révolution de notre temps, libérer Hong Kong, quelques heures après le retrait de la loi d'extradition, les slogans sont de retour devant le Parlement hongkongais. Pour cette conférence de presse improvisée à la nuit tombée, les orateurs portent cagoule et casques de chantier. L'annonce de Carrie Lam ne les a pas satisfaits, c'est un pansement sur une plaie à vif, explique-t-il. Rob Tailleur, Gina, travaille dans une multinationale de l'une des tours de verre du quartier.
Si elle avait retiré la loi il y a 3 mois, tout le monde aurait été content. Maintenant, on a vu des policiers frapper des civils dans le métro. Nous devons donc continuer à nous battre pour la justice.
Ce combat pour la justice, ces élèves en ingénierie civile rassemblés dans les rues commerçantes de Wanchai, non loin des institutions, y ont consacré tout leur été. Klaxon des automobilistes pour saluer la bonne nouvelle. Tom, 21 ans.
C'est une très bonne nouvelle. On s'est beaucoup battu pour ce résultat.
Un bon résultat, mais qui ne va pas assez loin, estime Andy Yep, 70 ans, retraité et joueur de football amateur dans un stade du centre-ville.
Hong Kong est devenu un état policier. La police est dans le métro, devant les écoles. Carrie Lam a fait de sérieuses erreurs.
Des erreurs que semblent prêts à pardonner les milieux d'affaires, seuls à se féliciter ouvertement de ce retrait de la loi, impatients de voir l'économie hongkongaise redémarrer.
Le reportage à Hong Kong pour France Culture de l'envoyé spécial de RFI Stéphane Lagarde. Les autorités chinoises, elles, n'ont pas réagi à cette décision de Carrie Lam à Hong Kong. La Chine, préoccupée en ce moment par la guerre commerciale qu'elle livre avec les États-Unis. Les négociateurs des deux pays doivent d'ailleurs se revoir début octobre à Washington, alors que de nouvelles surtaxes douanières sont entrées en vigueur ces derniers jours entre la Chine et les États-Unis. À quelques jours des élections législatives en Israël, Benjamin Netanyahou lui s'est rendu à Hébron, en Cisjordanie, hier, une ville ultra sensible, partiellement occupée et divisée entre juifs et musulmans. Le Premier ministre israélien est venu commémorer le massacre de juifs par leurs voisins arabes il y a 90 ans. 67 personnes avaient perdu la vie. Benjamin Netanyahou fut le premier chef de gouvernement israélien à se rendre dans la ville il y a 20 ans. Hébron, qui reste encore aujourd'hui, Frédéric Mettezo, un lieu de fortes tensions religieuses.
un chapiteau au pied du tombeau des patriarches. La cérémonie se déroule en contrebas de ce lieu sacré pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Le dispositif de sécurité est hors norme dans cette ville où 800 juifs vivent à côté de 200 000 arabes. Hébron, ville de toutes les haines, il y a 25 ans, un juif tuait 29 palestiniens sur les lieux saints. Mais Benjamin Netanyahou est venu commémorer un autre massacre. Moshe, très ému d'être là.
Mon grand-père est l'un des martyrs d'Hébron. Il a été poignardé, torturé et tué. Ma grand-mère a été poignardée, mais elle a survécu. Mon père, un petit garçon de 4 ans, s'est précipité sous le lit. Je suis ici avec l'espoir que M. Netanyahou tiendra sa promesse que les Juifs puissent se rendre librement ici.
Promesse tenue, Netanyahou proclame « Nous resterons pour l'éternité ». C'est l'évidence même pour Rebecca.
Hébron est la ville la plus importante pour le peuple juif. Nos pères, Abraham, Isaac, Jacob et nos mères sont ici dans le tombeau. Je suis tellement excitée de vous dire cela que j'en ai la chair de poule. L'histoire de mon peuple est ici.
Après le recueillement, le Premier ministre s'est offert un bain de foule de candidats. Les élections sont dans 12 jours et Benjamin Netanyahou a besoin des voix des électeurs les plus radicaux.
Le reportage à Hébron en Cisjordanie de Frédéric Mettezo.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayolle en France. C'est à partir d'aujourd'hui que le Premier ministre Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux pour discuter de la réforme des retraites.
C'est le point chaud de la rentrée politique. Le projet prévoit la suppression des 42 régimes existants, la mise en place d'un système universel par points ou encore un âge de la retraite à taux plein à 64 ans avec un possible âge pivot pour les carrières longues. Édouard Philippe promet une consultation large et parmi les organisations conviées, on retrouve les syndicats agricoles, les agriculteurs dont les retraites ne sont pas très élevées à leur choix et qui seront d'ailleurs très nombreux à partir prochainement à la retraite.
On estime que d'ici 2022, 40% des chefs d'exploitation actuels vont prendre leur retraite. Une saignée qui ne sera pas compensée par les installations de jeunes agriculteurs, même si ces dernières sont en légère hausse. C'est dire si le sujet des retraites est un sujet brûlant pour la profession qui compte 2 retraités pour 1 actif. Du côté de la FNSEA, principal syndicat agricole, la réforme Delevoye est plutôt vue d'un bon œil parce qu'elle devrait garantir un montant minimal de pension à 85% du SMIC. C'est plus que ce que gagnent en moyenne les agriculteurs retraités aujourd'hui. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Nos agriculteurs ont une retraite moyenne de 780 euros et les agricultrices de 600 euros. Donc on est sur des niveaux très bas. Le schéma de modification qui est porté par M. Delevoye, oui, nous le voulons. L'agriculture, nous avons un système compliqué où nous sommes calculés en retraite sur carrière complète, quand d'autres calculent sur les 25 meilleures années et d'autres sur les 6 derniers mois. Donc le système carrière complète est pénalisant pour les agriculteurs. Nous pensons que nous aurons des mieux dans le nouveau dispositif, idem dans la comptabilité des points de retraite pour les femmes lorsqu'il y a 3 enfants, donc sur des sujets aujourd'hui très précis qui permettent d'espérer des améliorations.
Ça, ce sera pour les futurs pensionnés, mais les agriculteurs à la retraite actuellement, soit 1 300 000 personnes, sont toujours cantonnés à leur faible pension. Pour eux, les syndicats agricoles réclament une revalorisation immédiate et importante à 1 000 euros minimum. Une proposition en ce sens avait été votée à l'unanimité par les députés avant d'être bloquée par le gouvernement.
Le reportage d'Anne Lorchouin, la majorité qui garde également un œil sur la bataille des municipales qui vont se tenir en mars 2020. La République En Marche qui voit d'un mauvais œil la candidature dissidente à Paris de Cédric Villani face au candidat désigné Benjamin Griveaux, le député de l'Essonne qui s'est officiellement lancé hier soir, Rosalie Lafarge.
Il se veut libre, Cédric Villani, libre de s'engager, libre de dénoncer un appareil politique inapproprié et libre d'y aller malgré tout. C'est une décision réfléchie, insiste le mathématicien. Il a, dit-il, pris le temps de consulter les Parisiens avant de se lancer.
Vous avez été si nombreux tous les jours à venir m'encourager. Vous m'avez dit, vous êtes libre, allez-y. J'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons faire autrement et mettre les Parisiens en mouvement pour retrouver notre dynamisme et notre fierté. C'est pourquoi je vous annonce que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
Dans ce discours d'une quinzaine de minutes, Cédric Villani place ses pions stratégiquement, insiste sur la ligne verte, l'écologie, sur la science aussi. Et ça, ça séduit évidemment Laurence De Villers, chercheur en intelligence artificielle au CNRS.
Je ne vois personne d'autre parmi les politiques actuelles ayant cette compréhension des nouvelles technologies. Or, nous vivons un monde totalement bouleversé par l'intelligence artificielle. Et c'est quelqu'un de cette envergure, il n'y en a qu'un, qu'il faut suivre.
Et dans ce café bondé rempli d'autant de militants que de journalistes, Benjamin Griveaux, le candidat officiel, en prend pour son grade.
Griveaux, c'est déjà un vieux. Il est comme les vieux politiques.
Les soutiens de Cédric Villani veulent croire en les chances de leur candidat qu'ils n'hésitent pas à inscrire dans la droite ligne du président de la République.
Moi, j'aimerais qu'un savant représente Paris à l'international. Je crois que ce serait quelque chose d'hors norme, exactement dans la philosophie d'Emmanuel Macron.
Finalement, il agit comme Emmanuel Macron, avec sa façon de penser qui est assez unique, assez marginale. Et Macron l'a fait, donc voilà.
Et dans des mots finalement assez proches de ceux d'Emmanuel Macron, Cédric Villani promet de faire campagne pour les Parisiens, avec les Parisiens, sans jamais, répète-t-il deux fois, sans jamais devenir un homme d'appareil.
Le reportage de Rosalie Lafarge. Le temps de ce jeudi très mitigé avec beaucoup de nuages sur tout le pays, de la pluie sur la partie nord, les températures de 8 à 16 degrés ce matin. On ne va pas s'attendre à bien plus cet après-midi, Guillaume Erner, car les maximales sont en baisse.
D'accord, on sait à quoi s'en tenir. Merci beaucoup Maxime Fayolle, 7h12 sur France Culture.